Depuis bien longtemps, je rêvais de passer à Pleyel. Les propos de ce spécialiste, pourtant éprouvés, que sont messieurs Poiré-Jean et Ferraud-Michel, n'étaient pas pour m'arrêter.
Lorsque vous avez quitté la France lors de votre dernier voyage, la presse s'était fait l'écho de certaines difficultés que vous auriez rencontrées, sans toutefois les préciser.
Oui.
Difficultés pour quoi, réunir le matériel ?
Non, absolument pas. Pour le matériel, tout était parfait. Simplement difficulté pour moi, difficulté pour avoir une date de libre retour pour la conférence à Pleyel.
Le vrai problème était ailleurs. Le monde entier avait été ratifié par les professionnels du voyage filmé. Que restait-il ? Rien. Puis, il restait la Suisse. La sauvage Helvétie. Les Jean Rouche, les Flournois, les Paul-Émile Victor, les Bombard, les Ischak, les Samivelle, les Rebuffat, les Dittert, les Taziev, les Cousteau, les Giraud, les Gaudio, les Dupéra, les Balzan, les Lotte, les Gessin, les Guébriand, les Mater, les Louis Vest, les Berrier, les Bourdelon, les Franco, les Cornel, les Zellamayard, les Gabu, les Ricci, les Tondeur, les Villeminot, les Mazières, les Legeorges, les Terrasse, les Ivanov, les Balif, les Igor de Garin, les Linger, les Rouspoli, les Mazel, les Raspag, les Gisalivert, les Morant, les Hubert, les Maxime Ferret, les Paul Bernard, les Zizi Schwartz, les Colin Lavaux, les Pétignot, les Christon, les Chegaret, les Mahusier, les Brandy, les Trouvé, les Erto, les Vitol de Golich, les Piével, les Langtal, les Muriotin, les Luzu, les Chanin-Piaton, les Desjardins, les Arbecs, les Arlès, les Lambert, les Pumbros, les Stevens, les Ludeuch, les Grelier, les Guesso, les Guerbrand, les Brugman. Et j'en passe. Se sont-ils jamais intéressés à la Suisse ? Non. Je décidais de relever le défi. Moi, j'irais en Suisse, fût-ce au péril de ma vie. La Suisse, cet inconnu, deviendrait aussi familière à notre cher public que le Baloutchistan, les Galapagos, le pays des femmes girafes, la terre Adélie ou l'empire des Incas. La lecture de Charcot. Cette lecture m'avait appris que toute expédition doit être préparée avec un soin méticuleux, avec une grande avance sur le calendrier et avec de substantielles avances en nature, de multiples firmes commerciales toujours prêtes au mécénat quand leurs produits sont appelés à figurer sur l'écran. C'est ainsi que je préparais ma propre expédition. De la vie des professionnels du voyage filmé, que je n'avais pas craint de consulter puisque je me proposais d'opérer sur un terrain vierge de leurs pas, je renonçais à emporter des armes. Où que ce soit, m'avait-il dit, et pourquoi la Suisse ferait-elle exception à la règle, l'indigène est de nature accueillant et bienveillant. Inutile, une arme peut devenir dangereuse. Elle éveille sa méfiance, l'incite à se refermer, le rend finalement inamical, voire hostile. Je partis donc, les mains nues, portant un modeste bagage qui étonnerait peut-être les Suisses, mais ne les effraierait pas. Autre continent, des nombreux explorateurs interrogés, toujours se plier aux us et coutumes du pays visité, a fortiori au rite magico-religieux, surtout dans les régions à forte tradition ancestrale. Et d'abord, pour les premiers contacts, prendre un guide local tel qu'un Sherpa dans l'Himalaya. Ce conseil, je devais en apprécier la pertinence dès que j'eus posé le pied sur le sol suisse. Un homme, habillé de façon singulière et dont je ne pus discerner si c'était un dignitaire, un prêtre ou un sorcier, nous accueillit dans des formes paraissant réglées de toute éternité. À droite, c'est mon guide, Surmontez, je vous en supplie, tous vos préjugés. Et convenez-en avec moi, il a une bonne tête, hein? De cette bonne tête, il me faisait alors signe que j'étais accepté par la tribu. Cependant, je devais me soumettre au rite. L'homme, aux vêtements singuliers, me demanda si je n'avais rien à déclarer. Lorsque je lui déclarai ma joie d'approcher enfin du but, je pensais Pleyel. Mais je lui dis la suite. Il s'inquiéta de savoir si je n'avais pas oublié d'apporter les cadeaux d'usage. Vous voyez, autant de traditions destinées peut-être à disparaître au train où vont les choses et qu'il était donc capital de fixer. Puis, assez vivement, l'homme et aussi mon guide prirent congé. J'étais en Suisse. Dès mes premiers pas, je connus l'enivrement de la découverte. Une pierre millénaire lourde de messages. Cependant, je ne m'y arrêtais pas. Mon souci immédiat était d'un autre ordre, comment entrer en relation avec la masse des autochtones. Le manuel du petit explorateur, devenu mon livre de chevet, était formel. Pour aborder quelque collectivité que ce soit, le mieux est de passer par l'intermédiaire des enfants. On les apprivoise plus facilement que les adultes. Hélas, les premiers que j'aperçus s'enfuirent à mon approche, regagnant plus ou moins précipitamment leur case. Mais la curiosité allait prendre le dessus. Il ne me restait plus alors qu'à utiliser la recette universellement infaillible des cadeaux. De la nourriture, typique de notre civilisation, des gris-gris, soigneusement choisis en fonction du degré d'évolution des élevés. La vieille méthode avait réussi une fois de plus. Par ce moyen, qui dans nos pays eût paru dérisoire, je venais de conquérir et la clé et la porte de la Suisse. Après les enfants et grâce à eux, les adultes, même cause, mêmes effets. C'est entouré de la bienveillance générale que je puis avancer sur ce sol mystérieux dont je rêvais depuis si longtemps. Mon premier souci, revenir aux vestiges archéologiques découverts dès l'arrivée. Une pierre tombale apparemment, qui m'avait d'autant plus frappé qu'elle ressemblait trait pour trait à celle que j'avais mise à jour lors de mes grands voyages. En Grèce, au Pérou, au Cambodge, au Mexique, une preuve irréfutable des échanges ayant pu se produire entre civilisations dès les temps les plus reculés. Outre son intérêt intrinsèque, que j'espère vous avoir rendu sensible, cette dalle funéraire devait me mettre sur la voie du fameux musée d'horlogerie récemment arraché à l'enfer vert par le grand archéologue dont le nom est en ce moment présent à tous les esprits, si ce n'est sur toutes les lèvres. De l'observation attentive et patiente de ses marches, je comptais déduire un état exhaustif de l'adaptation du pied contemporain aux œuvres nées de la main de nos ancêtres. Pour parler le langage accessible à tout le monde, le langage de la télévision. Je voulais voir comment les gens y font pour descendre. Malheureusement, cette recherche, qui ne pouvait se fonder que sur l'observation répétée de phénomènes à la fois semblables et différents, se trouva plus que contrariée par un événement terriblement déterminant, tout étranger à la chose qu'il fut. Les gens qui descendaient se faisaient plus rares et plus nombreux ceux qui s'asseyaient pour lire. C'était alors la grande vogue du petit livre rouge de Mao Tse-Tung. À vrai dire, mon objectif principal n'était pas l'archéologie, mais l'étude des hommes. De nouveau, c'est avec les enfants que tout commença, sans cadeau préalable cette fois, j'étais adopté, et bien que ce fût dans une circonstance en principe défavorable vu l'extrême pudeur de ces populations. Les enfants étaient au bain, je dis bien au bain, une image très rare, exceptionnelle, et pourtant j'ai réussi à la doubler. Non, ce n'est pas la même. D'ailleurs, pour qui en douterait, j'ai fait établir un constat par l'étude de Maître Sigrist et Lebrun, huissiers à Paris, constat que je tiendrai à votre disposition à l'entrée. En attendant, observez bien les deux documents. Voici à nouveau le premier. Et plus particulièrement, l'enfant situé sous le nom de l'archaïque embarcation. Dans le second document, cet enfant salue les bras levés d'une manière qui donne à penser que ces populations auraient déjà acquis certaines connaissances sur notre pays. Poursuivant l'itinéraire que j'avais pu tracer clairement dès avant mon départ de Paris, je passais rapidement du rite du bain accessoire à la question primordiale de l'habitat. Or, voici, c'est là qu'ils vivent, dans la promiscuité de ces cases primitives dont le monotone alignement s'étend à perte de vue. Seule différence, sur la côte ouest, les toits sont ronds, sur la côte est, ils sont pointus. Tandis que, ici et là, comme un symbole de l'unité du pays, la vaste maison des épousailles combine le cercle et la pointe. L'objectivité scientifique n'exclut ni n'exclut la sensibilité. De ce triste spectacle, j'avais le cœur serré quand, me retournant, je constatais avec soulagement que mes indigènes disposaient aussi de demeures analogues aux nôtres, humaines et riantes. Et ce que j'avais pris à la légère, je le confesse, pour leur résidence principale n'était que ce que nous appelons une maison de campagne. Détail intéressant, révélateur de la recherche d'une certaine vie intérieure, à l'entrée de chaque village se dressent un ou même plusieurs fétiches destinés à attirer les esprits bienfaisants. Un bonheur ne vient jamais seul. C'est le soir du jour mémorable où je découvris que les Suisses n'étaient pas dans la misère que je réussis mon premier coucher de soleil. Malheureusement, sans soleil. Le lendemain, m'enfonçant vers l'est, je devais aller de surprise en surprise. Avec une petite bouteille verte qu'on eût dit en matière plastique, un chef aspergeait de véhicules. Donc, premièrement, ces populations connaissaient le mécanisme de la bénédiction et peut-être la matière plastique. Deuxièmement, dépassant le stade du char à roues en bois et sans essieu, elles avaient su imaginer des moyens de locomotion très proches des nôtres. En y ajoutant cette note de poésie, en l'occurrence de couleur gaie, qu'on ne retrouve, il faut bien le dire, que chez les primitifs. Et poésie n'excluant pas le plus efficace réalisme. Ainsi, cette exclamation chiffrée que nous poussons par pur sifflage à l'approche de la police, les Helvètes, eux, par esprit pratique, l'affichent franchement et en plusieurs langues. Réalisme également la manière dont ils ont aménagé leur chemin. Mais tout est dans tout et réciproquement, nouvelle manifestation de la poésie, ces hiéroglyphes élégants, amoureusement peints par des artistes qui restent volontairement anonymes pour n'être que les interprètes de leur peuple tout entier. Et quels interprètes, traduisant les tendances brutalement opposées avec autant de fidélité et de loyauté qu'ils en mettent à souligner les courants de conciliation. Je n'ai qu'un regret, outre bien sûr de n'avoir pas connu plus tôt l'école universelle, c'est d'avoir manqué de temps pour déchiffrer ces énigmatiques documents. Mais je les verse bien volontiers au dossier des spécialistes, conscients que je suis, je dois le dire, de la valeur de cette contribution à une meilleure compréhension du passé. Ici, qu'on ne s'y trompe pas, les pièces que je suis en mesure de présenter sont de nature à faire avancer la connaissance dans des proportions hier encore inespérées. Certains de ces signes disent la grande sauvagerie du pays. D'autres, la rude discipline tant et si bien consentie par toutes les tribus, que certaines l'étendent même, s'agissant du stationnement par exemple, aux animaux de telle ou telle localité. Et toujours la poésie. Là où nos électriciens font clignoter des feux tricolores, que je n'ai malheureusement pas pu faire figurer dans cette image, les Suisses s'en remettent à l'imagination créatrice de leur caractère. Toujours aussi, l'esprit pratique allant droit au bout. Là où nous plaçons un symbole abstrait, les Suisses usent d'un signe clair, qu'ils nuancent en outre d'une touche d'humour à l'époque du carnaval. Ne faites aucun doute, en effet, qu'il veut dire ce signe-ci. Attention, vous allez vous casser la figure, on va bien rire, on en rit déjà. En résumé, toutes ces inscriptions au caractère utilitaire évident donnent au surplus un aperçu des subtilités de la pensée élevée. Certains pictogrammes ont été diversifiés de telle façon qu'ils soient adaptés au tempérament particulier des diverses couches de la population plus ou moins vive. D'autres visent à lutter contre ces défauts, par exemple contre la manie d'empiler les véhicules au stationnement, ce qui ne facilite pas la tâche des personnes arrivées les premières et se présentant les premières pour repartir. Après avoir admiré la beauté très singulière des fleuves d'Helvétie, je constatais avec plaisir que certaines tribus avaient su également concevoir l'habitation laquée. Oui, vraiment une bonne journée que celle-là, marquée de surcroît par mon deuxième coucher de soleil. Un peu délavé, j'en conviens, mais ne l'oublions pas, c'était la saison des pluies. En pénétrant dans une haute et profonde vallée de l'intérieur, je ne me doutais pas que m'y attendait une douloureuse révélation. Est-ce le fait des herbes hallucinogènes ou de la pilule dont l'usage semble en constante augmentation? Est-ce le fait de l'eau ou de l'altitude? Honnêtement, je ne saurais dire. En tout cas, la triste réalité est là, brutale, cruelle. Les enfants de cette région où le paysage appelle la grandeur sont tous atteints de nanisme. Voyez ce pitoyable attelage du marchand ambulant et de son petit garçon. L'homme est de taille normale, l'enfant ne lui arrive pas aux genoux. Au terme de cette pénible journée, un grand réconfort, mon troisième coucher de soleil. Et même, de l'autre côté de l'horizon, le quatrième. Autre réconfort, le lendemain, la découverte de signes non équivoques d'activités culturelles analogues aux nôtres, et aussi d'activités industrielles. En vérité, s'ils adoptaient nos techniques, ces gens connaîtraient une prospérité exceptionnelle, car leurs richesses naturelles sortent du commun. Pour ne prendre qu'un exemple, l'arbre en or, chez eux, est monnaie courante. Malheureusement, ils ne l'exploitent pas, comme tous les primitifs, ils s'en tiennent à un contentement esthétique. Cependant, je défie quiconque de m'accuser d'extrapoler, surtout maintenant, après tant de recherche, si j'affirme qu'ils ont réussi à monter de toutes pièces une énorme et spécifique industrie fromagère. Très étendue dans le sud-ouest, plus encore dans le nord-est. De même, je peux fournir la preuve de leur volonté d'accéder à ce stade du développement que concrétise l'écriture. Ainsi, pour exprimer leur gratitude permanente aux visiteurs de leur temple, ils ont apposé sur les clôtures des panneaux où nous reconnaissons avec fierté un mot de notre propre langue. Peut-être appris des Antillais, ce qui expliquerait qu'il n'est pas encore bien assimilé, mais ça viendra. Sur cette observation capitale, s'achevait ce que je continue d'appeler modestement mon enquête, ne serait-ce que pour protester contre l'emploi abusivement fait du mot « exploration ». Mais quelle enquête, combien fructueuse ainsi que vous avez pu en juger. Qu'il me suffit de rappeler la première découverte archéologique et d'évoquer la dernière zoologique que je réservais délibérément pour la fin. Cette image extraordinaire, notamment par son cadrage. Ce fier oiseau migrateur, symbole des longs voyages, puisse-t-il vous prendre sous son aile et puissiez-vous, à votre tour, voir un jour de vos propres yeux ce beau colisée, à peine détérioré par les vandales, et qui témoigne si bien du grand passé helvétique.